Allez, c'est reparti. Nouvelle émission de Plume et Pinceau, l'émission de bande dessinée de Canal B, 531e, une émission sans le vétéran.
Qui est sous d'autres cieux apparemment.
Ouais, il est parti direction plein ouest, direction Finistère.
Il ira jamais dans le Berry finalement.
Non, je sais pas pourquoi, il a peur des gens qu'il y a là-bas. Je sais pas, il se fait des montagnes de ce pays charmant, j'en sais rien. Oui. Je suis donc en compagnie de Mr. Fifrelin. Bienvenue, Mr. Fifrelin.
Toujours un plaisir.
Toujours un plaisir. On va chroniquer plein de BD parce qu'on en a ramené un bon paquet chacun. Le sac était lourd ce matin.
Oui, un peu dur.
Et nous enregistrons en pleine matinée. Fouf.
On n'est pas habitué, hein.
Non, non. Et les lampes du studio ont décidé de faire grève. Nous sommes dans une pénombre qui crée. C'est moi ou il fait chaud dans ce studio?
Il fait chaud. Et plus je vous regarde, plus j'ai chaud.
Avec vous aussi, on va parler des rencontres nationales des libraires.
Oui.
Je sais pas si je vous en ai dit.
On va en parler.
On va en parler. Puisque vous y aviez été en tant que, représentant, gérant, j'ai même envie
de
dire.
Ouais. Après, la ville était littéralement infestée de libraires à l'affût d'un mauvais coup, tout le week-end, avec des comportements proches du hooliganisme le plus débridé, comme
c'est
on s'en doute.
Vrai.
Et, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde.
Très bien, on va raconter à nos auditeurs un peu tout ce que c'était, les objectifs, les intentions, les combats, parce que il y avait un arrière-goût quand même de revendication ou d'affirmation.
Ouais, d'affirmation, puis il y avait de la peur aussi un peu.
Ouais, on va parler de tout ça après un interlude musical donc. It's hard to believe in yourself when the thought is just not. It's not natural for me. I've been reading a book called The Law of Success and it's making me feel even more crazy. Winston Churchill says loud, loud, never give up. Well, my tank is running real low. Cause I just keep on getting fucked. I got all these people around. They say you got what it takes. You're gonna make it, you're a real star. Well, I've been hearing this shit for so long that nothing happens, I can't take it anymore. So maybe it's me, huh? Maybe I'm the saboteur. But I've been on the ground this whole time and my purpose has always been pure. When it comes to making money, I don't know anything about that. I believe you, and like a dumb rat, I choke on the smoke of the industry trap till I am left on the floor. I am dead and depleted, no longer able to fight. So the next time you see me coming, don't you dare try to steal my life. Cause it's hard to believe in yourself when the thought is just not. It's not normal for me. I've been reading a book on the law of success and it's making me feel even more crazy. But Winston Churchill says loud, loud, never give up. Well, my tank is almost empty, so teach me how to not keep getting fucked. Voilà de quoi nous réveiller.
C'est très bien le matin, ça.
Ouais, ce morceau était donc pour Miss Matadora. Ouais, je vous disais, je me suis couché tard. On va venir, bien sûr, à des discussions sérieuses. Mais enfin, on avait commencé à en parler, donc autant le faire à l'antenne.
Bah oui.
Puisque ça touche le monde de
la vie. Les gens ont le droit de savoir.
Les gens ont le droit de savoir. Et puis Roger n'est pas là, on peut parler de super-héros.
Voilà, il va pas chouiner.
Voilà, il va pas chouiner. Nous regarder avec je comprends rien, les gars, passer à autre chose dans les yeux.
On pourrait parler d'Annie Cordy. Ouais.
Ça va lui coller comme le sparadrap de Captain Haddock, cette histoire. Bref, ouais, je vous disais que j'ai regardé le Director's Cut de Justice League hier soir sur Netflix, puisqu'il vient d'apparaître. 4 heures.
Ouais, moi j'ai vu la version normale.
4 heures, quoi.
4 heures, c'est long, quand même.
Ouais, c'est long. Alors, je dois avouer que je suis un peu circonspect. Je sais pas trop quoi en penser, parce qu'il y a des moments vraiment géniaux dans ce film. Il y a des bastons qui sont vraiment d'enfer. Quand Steppenwolf, par exemple, va voler la boîte mère avec toutes les Amazones. Après, je kiffe les Amazones, moi, les petites côtes de maille et tout ça. Enfin, bref, Matador est pas là, donc on peut en parler.
Le kink.
Bref, il y a des scènes vraiment géniales et il y a des moments, mais d'un sirupeux.
Eh ben, en fait, Zack Snyder, il est pas connu pour son sens de la mesure, ni dans un sens ni dans l'autre, et il est assez lourdingue en fait.
Ah, c'est sucré, ouais. C'est sucré quoi. Et il y a des scènes comme ça, Aquaman sous la pluie, il y a un match, un moment de football américain. Quand on repense à celui qui est Cyborg, là, je sais plus son nom.
Je me demande, c'est pas Cyborg.
Ouais, bah c'est peut-être Cyborg. Vous savez, quand il était footballeur, jeune footballeur américain, sous la neige. Enfin, il y a des trips comme ça, filmés très ralenti, tu vois. T'as le temps d'aller t'acheter un truc et de revenir, quoi.
Et puis ça n'apporte jamais rien à l'histoire, en fait. Enfin, c'est supposé apporter de la densité aux personnages, du moins de les adoucir un peu. Mais effectivement, ça rend le truc lourdingue. Et puis en plus, ils ont tous les mêmes, ils ont tous une espèce de pathos comme ça qu'on montre bien de façon bien flagrante, qui les rend pas forcément plus intéressants.
Il veut tellement les starifier que en fait, il a des scènes qui sont rien que pour ça, quoi.
Ouais.
Et ça ralentit vachement le rythme, ça casse le rythme. Je trouve, et puis à un moment t'as un peu une overdose. Mais après il y a des moments géniaux. Hein.
On peut pas lui enlever le fait qu'il sache tenir une caméra, filmer des combats, des trucs comme ça. Après il avait fait un film de zombies qui était super bien par contre.
C'était Army of the Dead ou quelque chose comme
non,
ça.
Non, hein. C'était avant, c'était le je sais plus ce que c'était, mais c'était pas Army of the Dead, parce que celui-là, c'était...
Un truc chez Netflix aussi, je crois.
Non, oui, si, il a fait ça, ouais, effectivement. Celui-là, je l'ai pas vu. Mais non, il en a fait un au tout début de sa carrière, avant qu'il fasse les Watchmen.
Ouais, d'accord, ok.
Watchmen, qui était un copier-coller de la bande dessinée, à l'exception de la fin, qu'il avait un peu modifiée.
Mais qui avait aussi des allures... Enfin, il y avait aussi cette alternance de scènes vraiment hyper réussies et de grosses lourdeurs.
Mais ça allait, parce qu'il avait vraiment collé au scénar de... au scénar de Alan Moore. Donc du coup c'était un peu moins pénible et par contre on pouvait aussi lui reprocher le manque d'originalité, le fait d'avoir... Alors, moi je suis pas trop parce que j'aime pas les films qui prennent des personnages où on se livre à des interprétations sur des adaptations qui la plupart du temps sont un peu foireuses parce qu'on n'a pas la même vision que le réalisateur et on a
Blueberry
qui était une catastrophe quoi, par exemple, ou le premier Daredevil qui était une merde sans nom aussi et
c'est nuancé
mais non mais Daredevil et Blueberry c'est vraiment des trucs que j'ai pris comme des affronts personnels donc du coup c'est vrai que je manque de nuances sur mais le premier Daredevil il est consternant quoi et Blueberry pareil.
Qui c'était l'acteur déjà de
Ben Affleck, en plus.
Ouais. Que tu retrouves en Batman.
En Batman, ouais. Mais oui, il circule pas mal entre les super-héros. Après, ils arrivent à s'en moquer, comme celui qui joue Captain America, qu'on retrouve, qui avait joué la Torche Humaine avant dans les 4 Fantastiques. Et dans Deadpool 3, pareil, qui est complètement raté, il joue sur cette alternance, ce qui était plutôt marrant.
Oui, c'était réussi.
Ça c'était réussi. Ouais. du coup, bref, pour en revenir à Zack Snyder, ouais, il a un côté un peu lourdingue. Mais j'ai pas vu la Director's Cut et tout le monde, enfin moi ce que j'ai entendu dire, c'est qu'elle est beaucoup plus réussie que la version au ciné.
Ouais, peut-être. Enfin voilà, moi c'était une simple impression, j'avais envie d'en parler avec vous. Bah alors, devenons plus sérieux.
Ouais, les rencontres nationales des libraires donc.
Ouais, donc ça s'est tenu à Rennes.
Ouais, ça s'est tenu à Rennes. En fait, ça change de ville, c'est tous les 2 ans et ça change de ville à chaque fois. Donc là, c'était au couvent des Jacobins qui est un endroit très très chouette pour ce genre de choses. Donc il y a une multitude d'ateliers, de tables rondes, de conférences avec des invités trier sur le volet et je le dis d'autant plus avec d'autant plus d'aplomb que on m'avait contacté pour animer une table ronde sur la dégafamisation. Et la personne que j'ai eue, je lui dis franchement, je pense qu'il y a des gens qui seront beaucoup plus pertinents que moi. Moi, je suis une buse en informatique, je vais pas sur les réseaux sociaux ou très très peu. Je veux bien en parler, mais je vais juste énoncer des platitudes que vous lirez dans les médias. Il y a certainement des gens qui sont plus éclairés que moi, donc on a échangé 2 ou 3 fois. Et elle m'a dit bah non, mais j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Je lui ai dit mais vous avez très bien fait parce que
Quelle modestie, mais
à un moment je pense que je me serais couvert de ridicule et ça aurait pas été forcément bien pour les rencontres nationales des libraires d'avoir un intervenant tel que moi sur ce genre de sujet en tout cas.
Alors globalement ces rencontres elles ont quelle ambition ou quel projet?
C'est un état des lieux de la librairie, enfin du monde du livre tous les 2 ans. Et cette année, l'ambiance était plutôt à l'amorosité, parce que le secteur de la librairie se porte pas très bien. Donc moi, je touche du bois, parce que nous, pour le coup, on s'en sort plutôt bien. Mais je pense que les libraires généralistes sont encore plus touchés que nous sur la désaffection des librairies, tout simplement. Après, il s'agit de faire un état des lieux qui va vraiment qui joue sur un petit peu tous les tableaux. Donc il y a vraiment beaucoup d'intervenants. Il y a des libraires de France, il y a des libraires de Suisse, de Belgique, il y avait même une libraire québécoise, et autrement il y a des éditeurs, enfin vraiment tous les acteurs du monde du livre sont présents, et il s'agit de discuter, de faire un état des lieux et de voir ce qui peut être amélioré, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, et puis d'essayer de faire en sorte que les choses s'améliorent, le cas échéant. Enfin, si c'est possible de le faire, quoi. Donc, bon,
Ce n'est pas que les indés, donc, qui sont.
Non, les indés sont aussi représentés, mais alors, le ticket d'entrée est quand même relativement cher, faut quand même le savoir.
C'est payant,
sauf pour les libraires dont c'est la ville.
D'accord.
Donc, nous, on a pu y aller gratos. Mais ça, c'était bien. Sinon, c'est payant. Et après, je comprends, parce que c'est un événement de grande ampleur. C'était au couvent des Jacobins. Donc, le couvent des Jacobins, c'est pas gratuit. Mmh. Et puis, il faut toute l'organisation, ça suppose quand même d'avoir un peu de fond.
La semaine dernière, je disais à Matadora que j'avais l'impression qu'en arrière-fond de la réunion de cette année, il y avait quand même l'IA qui était vachement présente. En fait.
Alors, il y avait des ateliers sur l'IA, mais l'IA, c'est encore un truc. Je pense que les libraires sont pas forcément très au fait de ce que l'IA peut ou ne peut pas faire. Après, ça reste quand même une menace, parce que on se rend compte que les livres publiés par IA sont généralement. Alors, moi, je prêche pour ma chapelle. Les dessins qui sont livrés par l'IA, ils manquent de personnalité. Peut-être que c'est quelque chose qui va certainement évoluer, mais on peut pas faire tout et n'importe quoi avec l'IA en bande dessinée pour l'instant.
Peut-être plus investir le webtoon ou les choses comme ça.
Je pense que ce sera plutôt pour ce genre de produit, en effet. Ce qui est intéressant dans la bande dessinée, c'est justement des dessins différents, des points de vue différents, des cadrages. Enfin, il y a tout un langage, en fait, que l'IA saura certainement imiter tôt ou tard. Mais elle aura pas ce petit coup de crayon discret qui fait que le dessin prend une autre ampleur, cette hachure dans un coin qu'un humain va pouvoir réaliser, parce que il va se dire tiens, ça donne une touche un peu particulière. Et
on risque pas encore de voir ce qu'on peut voir dans la musique, quoi, en fait.
Non, je pense pas, en effet. C'est moins, mais après, voilà, je pense pas être la personne la plus éclairée sur le sujet, mais pour l'instant, je pense qu'on est quand même à l'abri de ça, et je suis pas sûr que les lecteurs en aient envie, surtout. C'est pas forcément. Après, il y a toujours eu en BD comme ailleurs des produits de grande consommation où la recherche est pas spécialement l'originalité, mais la reproduction d'un schéma qui est déjà existant, qui a fait ses preuves, qui plaît à un grand nombre. Et là, effectivement, ça peut sembler pertinent. Ce que vous disiez sur le webtoon, par exemple, c'est tout à fait vrai. Pour les gens qui recherchent quelque chose d'un peu différent, ça marche pas pour l'instant, quoi.
Je me demandais aussi si on n'avait pas parlé, parce que c'est dans l'air du temps, de manière plus globale, le cinéma, la télévision, les journaux, etc. On avait parlé un peu concentration des éditeurs.
Ça, c'est un sujet qui nous touche de près. En effet, là, on voit que Bolloré a racheté Hachette, donc du coup, c'est un peu inquiétant. Mais là, c'est vraiment tout le secteur de l'édition à la distribution qui est impacté, qui est concerné. Donc ça, effectivement, ça peut être quelque chose d'assez problématique. On connaît un peu l'agenda de Bolloré, on sait que bon, c'est quand même quelqu'un qui a des choix politiques, qui a des choix idéologiques, et ça, effectivement, ça peut poser un problème. Après, le truc, c'est que ni les libraires ni les éditeurs, ils ont un levier, dans le sens où ils peuvent décider de se faire distribuer ailleurs. Après, Hachette, c'est une grosse machine, mais c'est une grosse machine efficace, faut quand même le savoir. Nous, travailler avec Hachette, ça a quand même des gros avantages en termes d'efficacité. Mais après, après, le fait de travailler avec Bolloré, ben, c'est un peu gênant aussi parce que on n'a pas forcément envie de servir la soupe à quelqu'un qui a ce genre d'idée. Et puis, pour moi, c'est un peu contre-intuitif dans le milieu de la librairie où l'intérêt, c'est justement d'avoir une large palette de choix. Et on sait que le fascisme ou ce qui s'en rapproche, le choix, c'est pas forcément leur idée d'un état idéal, ou du moins c'est pas leur recherche, quoi. Donc bon, c'est inquiétant. Il y a cette concentration qui est gênante, et puis il y a la désaffection des librairies qui pose beaucoup de problèmes aux libraires. Après, je sais pas, nous, dans quelle mesure on peut... En fait, il faut donner envie aux gens de venir en librairie. Et ça, je pense que pour le coup, c'est aux libraires de faire en sorte que les gens aient envie de revenir.
Mais donner goût de venir, je pense... en fait, les lycées, les écoles font plein d'actions maintenant, ouais, en partenariat avec vous.
Oui, il y a le jeune en librairie, il y a les concours ou les prix qui sont organisés par les CDI.
Sort de ta bulle,
par exemple. Pour ne citer que lui, qui nous concerne de près à Rennes, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Mais je sais pas si ça sera suffisant ou quoi. Je pense que c'est quelque chose qui, quand même, a forcément un effet positif. Je sais pas combien d'élèves sont concernés par le projet, mais il faut quand même essayer de les embarquer. Après les enfants et les adolescents sont par nature curieux, donc il faut réussir à les embarquer. C'est vrai qu'ils peuvent être rétifs aussi, mais je pense que pour moi c'est pas un combat perdu, c'est juste qu'un combat qui sera amené, qui a toujours été un combat et qui devra toujours, ça a toujours resté une priorité, en fait, à amener les gamins à la lecture.
Vous seriez pas libraire sinon.
Sinon je serais pas libraire, en effet.
Ouais. Mais pour moi qui ai eu l'occasion d'assister en fait à une visite dans la librairie, dont on tient le nom, d'une classe, je trouvais que ça avait sens aux yeux des gamins. Enfin, je veux dire,
ils vont fouiller les bacs, ils nous posent des questions, ils veulent voir des trucs, et c'est vrai que c'est intéressant. Moi, ce que j'aime bien dans ces moments-là, c'est qu'il y a une espèce de cacophonie, mais joyeuse, où ils sont à l'affût de plein de trucs, ils cherchent des bouquins, ils veulent voir les prix, et c'est vachement agréable. Ouais. Parce que d'un coup, il y a beaucoup, beaucoup de personnes dans la librairie, et on a l'impression qu'ils sont contents. Bon, ils sont peut-être plus contents d'être là que d'être en classe, c'est possible. Mais je suis pas loin de le penser, en tout cas. Et donc, du coup, non, c'est vrai que c'est des moments qui sont assez chouettes. Et pour peut-être mettre un point final, je ne sais pas, moins que vous ayez d'autres questions, sur les rencontres des nationales des libraires, le gros problème, c'est l'augmentation des charges, le transport a augmenté de façon exponentielle, l'énergie de manière générale, les salaires sont pas très attractifs parce qu'en librairie, on n'est pas très bien payé, et donc ce qui revient systématiquement, j'ai déjà fait quelques rencontres avec des éditeurs et des libraires, ce qui revient systématiquement, c'est les marges qui sont faibles, et donc on demande à chaque fois aux éditeurs de nous accorder des marges plus grandes, et je comprends que les éditeurs sont un peu frileux sur le sujet, mais après eux ont aussi des contraintes économiques qui sont compliquées à gérer. Donc bon, on en est toujours à une espèce de statu quo. Où on se regarde un peu en chien de faïence, comme on a besoin les uns des autres, personne n'ose dire les mots qui fâchent trop fort.
C'est la cohabitation.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est une cohabitation qui se fait relativement bien, mais on sent qu'il faudrait pas trop pousser les libraires pour pousser des cris d'orfraie.
Ouais, ouais, très bien. Vous nous offrez un rêve humide.
Allez.
Excellent morceau de Wet Legs. J'espère que tout le monde a reconnu. Alors, on voulait commencer, je dis bien on, parce que, en fait, on a eu tous les deux cette lecture, on a tous les deux ramené le livre, il y en a un qui a été couillon, il aurait pu le laisser à la maison.
Oui, c'est vrai.
Parce que c'est un gros livre.
Si on s'était un peu mieux consulté, peut-être.
C'est clair. Au moins, on s'influence pas, on se restreint pas. Belle de soie. Vous voulez commencer ou,
Allez, pourquoi pas. Ouais. Donc, Belle de soie, c'est un gros bouquin de Pavel Barthes aux éditions Delcourt dans la collection Mirage. Moi, ça m'a fait un peu penser à l'ambiance qu'il y a dans Podhomme, mais en étant quand même assez différent. Donc, on se situe quelque part en Europe médiévale. On va suivre la fille d'une tisserande. Une tisserande qui a une grande importance dans l'histoire. Elle est la seule à pouvoir fabriquer une soie qui a des propriétés qu'on va découvrir assez tard dans l'album, d'ailleurs.
On dirait du mithril.
Ouais, exactement. Je ne sais pas ce que c'est le mithril, mais je vous crois sur parole.
C'est les cotes de mailles des elfes dans Le
Seigneur
des Anneaux. Oui. Excusez-moi de... Comme on peut parler dans cette émission, voilà. Parce qu'on n'est pas interrompu.
Avec des histoires de jaquettes ou...
Des trucs mesquins et petits, dans le fond. Enfin bref, ne parlons pas de cet individu. on peut glisser quelques références culturelles, quoi.
Voilà.
Élevons le débat. Ouais, elle est très importante. La fille s'appelle Jeannette.
Jeannette, ouais. La fille de la tisserande s'appelle Jeannette. Et elle va être recrutée par la...
Comtesse, peut-être, ouais.
Je ne sais
plus.
Une noble d'un rang assez élevé pour devenir une suivante, en fait, une genre de dame de compagnie, mais pas tout à fait. Noble, qui a un agenda assez précis parce qu'elle voudrait marier son fils. À la fille du roi.
Oui, c'est ça.
À la fille du roi pour donc accéder à un rang de super noble, quoi.
Et en fait, il y a des rencontres interorganisées par le roi. Il a justement sa fille tarde à se marier et il organise vraiment une espèce de, on pourrait appeler ça comment on appelle
un
ça
rallye.
Un rallye, où toute la noblesse du coin et voire des pays environnants est conviée.
Amène sa progéniture pour essayer de convaincre
de la placer
voilà et sauf que effectivement la fille du roi est rétive, on va savoir
pourquoi
et donc cette Jeannette va se retrouver embarquée dans une espèce de coup fourré qui a été organisé on sait pas trop par qui va la placer dans une position assez délicate. Mais ce qui est vraiment remarquable dans cet album, c'est qu'il y a un tas de rebondissements, mais ça n'arrête pas. On dirait une série américaine, mais
tout part de l'idée que Jeannette est vraiment très jolie.
Oui.
Elle est vraiment très jolie. Et donc, en fait, la duchesse veut utiliser cette beauté, effectivement, dans un complot. Mais même l'arrivée simplement de Jeannette, finalement, va semer le trouble par sa beauté. Et tout se joue autour de ça.
Ouais, c'est pas mal parce que ça joue à plusieurs niveaux.
Ouais.
C'est utilisé de façon différente par l'auteur qui a bâti un scénario que je trouve assez convaincant. Mais comme vous le disiez, je sais pas. À la fin de l'album, j'étais un peu perplexe. Je sais pas si j'avais beaucoup aimé ou pas trop, parce qu'il y a tellement de rebondissements qu'à un moment, on se demande où ça va s'arrêter. Mais tout est quand même bien tenu. C'est-à-dire qu'il y a pas
de... C'est très riche en thèmes, parce qu'à travers la figure de Jeannette, il va vraiment aborder plein thèmes. La filiation, l'homosexualité, la séduction, le rang, les ambitions, enfin vraiment plein de trucs. Et ce qui est aussi assez... significatif de cet album, c'est le graphisme. Il est vraiment très particulier. Il a un côté tapisserie médiévale.
Ouais.
Et aussi des fois un peu psychédélique 70. Enfin, il y a des scènes un peu très étranges. Il y a une femme sans visage avec une longue chevelure là.
On sait pas trop d'où elle sort ni quel est son rôle précis, ni même si elle est réelle ou
la mère Sorel, je crois qu'elle s'appelle, la mère de Jeannette, qui effectivement, je sais pas, serait schizophrène et parlerait avec une illusion. Enfin,
ouais.
Mais c'est très très riche. J'ai pas réussi à le lire en une seule fois, moi.
Non, moi non plus. Il m'a fallu, pour le lire en une seule fois, faut avoir quand même trois heures devant soi, quoi.
Ouais,
peut-être pas trois, mais au moins deux.
Et c'est le premier album, je crois, de ce Pavel.
C'est un tour de force.
Ouais, c'est très impressionnant.
C'est un gros bouquin qui fait quand même dans les 300
bon
pages.
Bon paquet de pages, ouais.
Ouais, non, 200.
Je trouve que la couverture, par contre, ne s'impose pas.
Non, la couverture, elle, alors, en même temps, elle raconte pas mal de trucs. Oui. Mais effectivement, elle donne.
L'arrière-fond.
Elle donne pas très envie, en fait.
Ouais, je la trouve, désolé, hein, mais pour une fois. Pas guichante.
Elle fait assez datée, en fait.
Oui.
Elle fait assez datée, elle fait.
Mais en fait, le dessin a cette espèce de, ouais, de côté un peu, il est semi-surréaliste, un peu suranné dans les couleurs.
Ouais. Les couleurs qui sont assez pastel, en fait.
Ouais.
C'est pas un album qui pète, mais qui est. Parce qu'on est en train d'en dire du mal alors.
Non. On est en train de faire sentir qu'il est déroutant.
Oui.
Parce que par moments, il y a des super cadrages aussi. Il y a des trucs très modernes. Il y a des bulles. À un moment, par exemple, il y a une ville où les gens, il y a la rumeur qui court. Et t'as
ça ah fait oui vraiment les gens qui seraient médiéval, ouais tout à fait ouais
un truc à la Bosch enfin à la Bosch ouais. À la Bosch tu sais avec plein de personnages partout et plein de bulles et tout, plein de
et on voit la rumeur qui progresse se déforme au fur et à mesure des
presque
discussions
ouais. Comme dans certains comics où tu as un déplacement à l'intérieur de tu sais d'une, ouais. d'une case avec un le prétexte d'un escalier par exemple il y a des trucs vraiment très surprenants très modernes et puis
effectivement, il y a ce côté tapisserie où les gens sont représentés assez facilement de profil, où il y a les trois quarts qui disent pas trop leur nom, mais c'est plutôt bien fichu quand même.
Ouais. C'est paru donc chez Delcourt, collection Mirage, qui est plutôt sur des récits de vie très souvent, enfin des choses comme ça, des choses assez littéraires.
Oui, puis le format est un peu inhabituel pour cette collection-là, si je me trompe pas.
Il est plus gros,
il est plus massif, ouais. Plus mastoc.
Ça s'appelle Belle de Soie. Pavel Barthes.
Ouais, si vous voulez vraiment une histoire avec plein de rebondissements ou alors pour le coup moi ce que j'ai bien aimé c'est que l'auteur nous embarque dans son truc et il nous mène par le bout du nez.
Ouais. Et pour rebondir sur quelque chose que vous évoquiez précédemment, là on sent qu'il y a un humain derrière, il y a vraiment
un
point de vue subjectif, il y a un projet personnel, clairement. Bah voilà, qui enchaîne du coup?
Moi, je peux...
Je vous ai un peu volé la parole.
Oui, non, mais c'est
très... moi, je veux bien parler de ça aussi avec vous, parce que...
Chine Zéro.
Ah ouais, c'est bien, ça.
Ah ouais, c'est bien,
Chine Zéro. Je n'ai pas encore lu le deuxième, mais j'avais été convaincu par le premier.
Je vais essayer de pas trop vous en dévoiler, du coup. Donc, on retrouve...
Aguiche-moi.
On retrouve nos héros du premier tome. Donc, Chine Zéro, c'est... Alors, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est là encore, on est dans une espèce de mélange. Ça ressemble un peu à du manga... Ouais. C'est pas très éloigné du comics et ils ont tous des noms français. On retrouve cette bande de super-héros ubérisés, donc des Sentai, qui étaient censés lutter contre des IQ. Donc à la fin du premier album, il y en avait un qui avait remporté une bataille décisive, qui les a un peu ramenés au devant de la scène. Donc ils ont un peu sorti de cette ubérisation qu'ils avaient subie. Mais bon, la situation traîne un peu en longueur. On sent que ça peut n'être qu'un feu de paille. Mmh. Et donc du coup, le personnage principal qui avait réussi à triompher d'un kaiju qui était finalement que le résultat de la lutte contre les kaiju qui avait été menée des années auparavant. Il y avait un type qui avait subi des modifications génétiques qui se sont réveillés au moment où il était sur le point de mourir. Il y en a un qui a réussi à le combattre. Bon, il a utilisé des moyens assez limites pour parvenir à ses fins. Et ensuite, il a surfé sur la vague de la célébrité. Il est devenu une espèce de superstar parce qu'il a sauvé, la ville. Et donc, on retrouve nos personnages qui vivent dans une coloc. Leur situation économique semble assez précaire. Il y en a qui ont des problèmes pour payer le loyer.
C'est ça.
Le personnage principal dont j'ai oublié le nom, lui, il est pas mal sur un équivalent de OnlyFans à reluquer une jeune fille.
C'est ça qui est très réussi dans cet album sous des dehors de super-héros alloués parce qu'il ressemble aux Power Rangers.
C'est les costumes,
un rouge,
c'est les copier-coller.
Ouais. Voilà, ouais. Sous ce prétexte de d'ubérisation de super-héros, on a en fait une espèce de réflexion sur la vie étudiante et de jeunes adultes qui cherchent
l'insertion dans la société.
Exactement.
Qui est assez difficile et on voit bien qu'il galère comme tout le monde. Il y a des tensions dans l'appartement, on sent que la vie est difficile. C'est en plus la ville dans laquelle ils vivent semble assez tentaculaire. On a l'impression que c'est des cours d'immeubles qui enfin des dalles quoi, c'est une succession de dalles avec
Mega City One.
Ouais, voilà, c'est un peu ça en fait. Donc t'as ce côté oppressant de la ville et ce côté oppressant de la vie aussi où tout semble difficile en fait. Et donc le deuxième tome suit bien les traces du premier. Alors il poursuivre leur histoire. Moi, ce que j'aime bien avec ces auteurs-là, c'est que bon, ils ont quand même de la suite dans les idées. Et du coup, on sent que le scénario, il est pas écrit au fil du temps. Il y avait un truc au départ et qui reste constant dans le.
Au dessin, c'est Monsieur Singelin. Si
ouais,
je me
tout
trompe
à fait.
Pas,
et au scénario, c'est Babelais.
Ouais.
Donc un peu les superstars du label 619.
Ouais, clairement. Ouais. Dans la SF notamment.
Dans la SF complètement même. Il avait fait une ou deux incursions dans l'Heroic Fantasy Babelais, mais là
oui,
où.
Oui, une histoire. Il y avait un grand géant et puis un personnage qui pouvait pas mourir.
Adrasté.
Ouais, c'est ça.
Et il avait fait la belle mort aussi.
Ouais.
Et donc, oui, c'est des auteurs qui n'ont plus rien à prouver et qui continuent à faire des bonnes histoires. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un format qui est complètement différent. Mmh. Et là, c'est, encore une fois, c'est un format qui est à mi-chemin entre le comics et le manga. Mmh. Donc, je pense que Label 619, c'est là où ils ont été malins. On sent que c'est des auteurs qui ont digéré le franco-belge, le comics, le manga, et qui ont réussi à en sortir quelque chose qui leur appartient. Mmh. Qui est un mix des trois, généralement assez réussi. Il y a quelques albums qui valent pas le coup, mais en tout cas, qui fait pas de faux pas.
Mais en tout cas, dans la BD de genre, j'ai envie de dire.
Ouais, ils ont posé une patte qui leur appartient.
De Guy Bag, moi, de toute façon, je suis admiratif de ce label. J'y trouve régulièrement de quoi
me ravir. Il y a souvent des pépites, ouais, c'est vrai. Et donc, Shin Zero, tome 2, c'est vraiment encore une bonne suite.
Ce sera un triptyque.
Ouais, ce sera un triptyque, tout à fait. Mm-hmm. Donc, on est aux deux tiers de l'histoire. Déjà.
Interlude musical.
Allez.
Celui-là, tiens, je pense que ça va vous plaire à vous. Je vous le dédicace. Vous connaissez les Cosmic Psycho ?
Mais pas du tout.
Ils nous incitent à aller au pub. Oh. l'ambiance dans le pub.
On s'y croirait.
On s'y croirait.
J'ai l'impression d'avoir bu de la bière.
Ambiance Coupe du Monde. ça tombe bien. Alors, vous avez lu le premier album que je voulais chroniquer.
Oui.
L'Escamoteur. Alors, vous avez raison, ça date un peu. C'est un peu du rattrapage. Merci Vincent de m'avoir prêté cette excellente BD. Paru aux éditions Futuropolis. Philippe Collin au scénario. Déjà, ça dit beaucoup de choses sur cette BD.
Bah, déjà, le côté histoire.
Ouais, clairement.
Parce que Philippe Collin, on le connaît pour ses podcasts.
Oui.
Sur Pétain, sur Bloom. Céline, sur Bloom, sur les
sur
résistantes.
Marigan, ouais.
Donc, quelqu'un qui généralement va assez loin dans les sujets qu'il traite.
Ouais, et parle très très bien d'histoire.
Ouais.
Vraiment rend ça très vivant. Il nous propose donc une histoire avec dessinée par Sébastien Guettal, et je crois même que c'est en fait Sébastien Guettal qui est plus ou moins à l'origine de ce récit, l'Escamoteur.
Ok.
Si j'ai bien compris, parce que ce qui est la première caractéristique de cette BD, c'est qu'on va avoir effectivement un récit historique, mais qui est doublé par le récit de la conception de l'album, où on a des discussions entre les deux qu'on ne voit pas, mais c'est vraiment comme si on était ils sont hors champ, mais on a juste vraiment la table avec un stylo posé, des feuilles où ils prennent des notes, et puis leurs discussions, des bulles qui s'échangent. C'est vraiment raconté comme ça. Donc parce que en fait le sujet est hyper complexe. On est en France, on est dans les années 70, le gros de l'histoire se noue en 1977. C'est un polar politique qu'on nous propose, qui tourne autour, alors d'un côté je dirais de Jean-Marc Royan.
Rouillant. Ouais.
Alors pour ceux qui connaissent, c'est un des membres clés. Peut-être même un des fondateurs, si j'ai bien compris.
Pour moi, c'est le personnage le plus important.
Emblématique, en tout cas, de Action Directe, qui a sévi dans les années 70, donc mouvement révolutionnaire d'extrême gauche, qui va mener des actions. C'est vrai, c'est un sujet, encore de nos jours d'ailleurs, assez sensible. Parce qu'il a ses soutiens, il a ses fans. Hein.
Ouais, il a ses fans. Et puis ça a été assez loin dans la. Il y a un volet politique en fait, parce qu'ils ont été remis en liberté par Mitterrand après son élection, et ça avait fait couler beaucoup beaucoup d'encre.
Ouais, parce que c'était vraiment des révolutionnaires au sens propre, c'est-à-dire qu'ils menaient des actions armées. Et là, on va avoir notre personnage et un autre. C'est cette espèce de duo qui va se faire, la relation entre les deux, plus que l'histoire connaît moins, Gabriel Chaïne, et pourtant qui a un rôle hyper important dans le devenir d'Action Directe.
Ouais.
J'ai envie de dire. Leur relation va se nouer en 77 autour d'un tableau, l'Escamoteur, du fameux Hieronymus Bosch évoqué plus haut. C'est un tableau qui est très bien décrit en fait par le personnage de Gabriel Chaïne qui s'y connaît en peinture,
qui tient une galerie.
Oui, exactement. Qui montre bien que dans ce tableau, Hieronymus Bosch en fait nous montre que le monde est injuste, quoi, qu'il est plein d'arnaqueurs, de faux semblants, de menteurs, puisque en fait c'est une espèce de jeune bonneto. Mais avec de la métaphore cachée dedans, à droite, à gauche.
Ouais, il y en avait beaucoup apparemment dans les tableaux de Hieronymus Bosch.
Ouais. En fait, il y a tout un message caché à la Da Vinci Code. Enfin, ouais. On pourrait dire, il y a pas de lémurien dans l'histoire, mais voilà, c'est un regard assez ironique, cynique, désabusé sur le monde qu'il y a dans ce tableau. Et en fait, l'idée, c'est que pour financer l'action directe, Gabriel Chaïne propose plus ou moins, ou disons encourage nos révolutionnaires à aller cambrioler, voler ce tableau. Qui est dans un tout petit musée à Saint-Germain-en-Laye.
Ouais.
Un truc pas protégé. Donc le couvert est facile. Normalement.
Ouais, même les gros musées, visiblement, c'est assez facile d'aller sur des tableaux ou
l'histoire
des
choses. Nous l'a prouvé. Bon, le coup va foirer, mais d'avoir monté ce projet ensemble, il y a une relation de confiance qui s'établit.
Ouais.
Et en fait, tout le sel de l'histoire, c'est que Gabriel Chaïne est un personnage beaucoup plus trouble et peut-être moins honnêtement révolutionnaire que les membres d'Action Directe. Et qu'il a certainement un rôle à jouer dans le destin que va connaître Action Directe, puisque on va tous finir en case-prison, nous l'avons évoqué. Et c'est passionnant en fait.
Ouais, moi j'ai beaucoup aimé ce récit. Ça fait écho à plein de trucs. Et puis c'est un sujet qui est encore mal, enfin du moins il est pas mal connu, mais qui est traité et qui est difficile. Moi, je trouve que c'est vraiment un sujet à prendre avec des pincettes parce que, comme vous le disiez, il y a plein de faux semblants. On ne sait pas si c'est des révolutionnaires honnêtes qui ont sombré dans le grand banditisme ou des bandits qui sont donnés. Bon, je pense que Jean-Marc Rouillant avait probablement au départ une vraie volonté d'être d'être dans la révolution, de lutter contre le capitalisme. Mais après, je pense que ils ont vraiment littéralement sombré. Puis il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu des choses qui ont été. Mais bon, ils ont secoué le cocotier. On peut pas leur enlever ça.
Non. Puis c'est passionnant. En fait, bon, ça va peut-être spoiler un peu, mais ça m'a vraiment fait penser à Chalandon et Mon Traître.
Sauf que Gabriel Shane a pas l'air de subir la même contrainte que le traître dans le roman de Chalandon.
Et en tout cas, il est fascinant.
Oui, il est fascinant, et puis surtout il a ce côté révolutionnaire, mais en fait, c'est un admirateur de De Gaulle. Mm. On est en 77, donc le mon général est pas encore tout à fait froid et on comprend pourquoi il l'explique. Il l'explique assez bien et il est vraiment très complexe parce qu'on sait pas trop quelles sont ses motivations
in fine. Ouais. Et alors tout ça est agrémenté d'un cahier, enfin c'est pas un cahier graphique, mais vraiment d'une note bibliographique, d'une présentation d'Action Directe, et d'un aperçu de toute la galaxie finalement d'extrême gauche en France, des informations sur la radicalisation, etc., l'après mai 68. C'est vraiment passionnant. Et graphiquement, c'est plutôt très efficace aussi.
Oui, ça fonctionne bien. C'est une facture classique, mais bien.
Ouais.
Mais qui convient bien aussi, en fait.
Très à l'association, je trouve.
Un peu.
Maintenant, j'ai vraiment.
Bah, essayé. Je trouve que pour le coup, c'est vraiment la ligne Futuro.
Oui.
Parce que l'association, ils peuvent partir dans des côtés graphiques un peu plus poussés. Là, on est sur quelque chose d'assez classique. Mais très très futuro, je trouve.
Oui, réaliste, et puis on joue avec les couleurs un petit peu, pas mal de sépia.
Ils avaient fait Marcel Grob ensemble.
Oui. Ouais, ils ont fait déjà Le Voyage de Marcel Grob et La Patrie des Frères Werner également. Voilà.
Oui, donc, tout à fait, ouais.
Et là donc ce duo à savoir monsieur Guétal et Philippe Collin reviennent donc pour ce polar historique. Qui tourne autour de, je sais pas si finalement Action Directe est vraiment le cœur du sujet.
Mais ouais, je pense que c'est vraiment sur Gabriel Shane, mais par contre, il y a quand même toute une partie de sa vie qui a tourné autour d'Action Directe.
Ouais. Donc, c'est ça.
Et pour les gens que ça intéresse, je me permets de faire
une
petite intervention. Il y a un très bon triptyque de bouquins de Dierstein. Benjamin Dierstein, qui traite en fait c'est un peu le Elroy français. Donc c'est une trilogie, c'est Bleu, Blanc, Rouge, 14 juillet et j'ai oublié le troisième, qui traite de toute la période en fait de ça commence sous Giscard et ça finit sous Mitterrand et où il parle de Gabriel Shaheen, de toute la criminalité en fait qui a eu dans ces années-là, parce que c'était des années qui étaient quand même assez dures. Ça commence à peu près en 68 et ça se termine début 80, et on suit un mercenaire qui revient sur Paris pour faire dans le crime mais brasser de l'argent, et donc des liens qu'il va y avoir entre la criminalité et la politique, et c'est hyper bien.
Ça me fait penser, je suis en train de rechercher le titre, l'album qui est sur le chanteur de Caméra Silence.
Un héros
je sais plus
que vous aviez chroniqué, je crois.
Je vois la couve et tout, j'ai plus le titre. Ouais, ça faisait très polar d'ailleurs, série noire, quelque part noire. Et qui était un peu aussi sur,
c'est sur cette période-là.
Et pareil, ce banditisme... un peu politique.
Et on a l'impression que c'est un peu des enfants perdus qui n'ont pas trouvé de cause, qui s'en bricolent une et qui font un peu n'importe quoi, du moins dans leur esprit, c'est probablement pas le cas, mais vu de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a une espèce de course en avant qui peut que mal se terminer.
D'ailleurs, le temps qu'on y est, puisque on peut faire des références culturelles aujourd'hui, vu qu'on n'est pas coupé toutes les deux minutes. Sur Arte, il y a le procès Goldman, qui est encore un peu autour de cette thématique.
Complètement, ouais.
Extrême gauche. Oh là là, c'était bien sérieux. En tout cas, c'est un super album. Oui. L'Escamoteur, Philippe Collin, Guétal, Futuropolis, beau bouquin. Avez-vous quelque chose à me proposer, à nous proposer, pardon.
Oui, je vais vous parler de Gunnar le Vampire, de Nicolas Dumonteil.
Ok.
Gunnar le Vampire, c'est... Alors, Nicolas Dumonteil, on le connaît. Il a fait des choses plutôt...
Enfin, je connais pas l'album.
Il a un univers, en fait, assez particulier, Nicolas Dumonteil, où c'est un univers qui n'appartient qu'à lui, encore une fois. Enfin, Dumonteil, pardon. C'est, encore une fois, c'est un type qui, chez qui l'IA n'aura pas de prise. Et donc, il nous parle de Gunnar. Gunnar, qui est un vampire suédois, qui s'est installé dans une petite bourgade de France, peut-être bien dans le Berry d'ailleurs. Ça fait 700 ans qu'il est sur Terre, ça fait plus de 300 ans qu'il s'est établi dans cette petite bourgade, et il est connu comme le vampire du coin. En fait, il a fait son trou, les gens l'apprécient. C'est un vampire qui a la particularité de pouvoir sortir le jour. Donc bon, il a des vrais attributs de vampire. Il peut se transformer en chauve-souris, mais il évite de s'en prendre, de tuer des gens en leur aspirant le sang. Donc il va parfois ponctionner des bêtes, mais vraiment de façon à rester bien acclimaté avec la population locale. Donc on le trouve un peu, ça c'est un type un peu bizarre, mais en fait la plupart des habitants, comme il a 700 ans et qu'il vit là depuis 300 ans, la plupart des gens l'ont connu toute leur vie. Ouais. et c'est une figure du village. Bon, c'est une figure du village inhabituelle, mais ça reste une figure du village. Et donc tout se passe bien. Donc il vit avec une vieille dame qu'il a connue quand elle était jeune, et dont il dit que c'est sa de toutes les femmes qu'il a côtoyées, c'est sa préférée. Elle est sur le point de décéder, donc bon, on comprend qu'ils ont une vie très heureuse tous les deux. Mais là, ça va se terminer pour elle. Et le problème pour Gunnar, c'est que sa sœur, qu'il a pas vue depuis à peu près 600 ans, débarque en ville. Et sa sœur, c'est pas du tout, mais du tout le même tempérament. Sa sœur, elle est très contente de sa condition de vampire, elle s'en accommode très bien. Par contre, c'est une vampire. Donc c'est-à-dire que si elle doit buter des gens, ça lui pose aucun problème. Et aspirer le sang de quelqu'un, enfin, elle considère que les humains, c'est du bétail. Elle a le même regard que les humains sur les animaux, quoi, en gros. Et donc elle vient, ça l'enchante qu'à moitié parce qu'il se doute que ça se fera pas.
Ça va lui attirer des problèmes
et qu'elle va créer des problèmes à la population. Donc lui, il est plutôt ami avec la plupart des gens, donc ça l'arrange pas particulièrement. Et donc on sent qu'elle va semer le trouble dans sa vie qui est plutôt bien rangée. Et elle arrive avec le plus vieux vampire de tous les temps, donc un homme de Néandertal qui est un très vieux vampire qui parle un nombre de langues incalculables, et lui non plus n'a pas l'air d'être économe quand il s'agit de consommer des vies humaines. Et pour couronner le tout, il y a des chasseurs de vampires qui débarquent en ville.
Yeah.
Donc des types qui collectionnent les têtes de vampires comme des trophées. Un type assez désagréable qui visiblement est un colonisateur féroce qui chasse du bétail humain, hein, quand même, de préférence, après avoir accroché à son palmarès à peu près toutes les bêtes de la création, et qui est accompagné de son aide de camp, en quelque sorte, qui est un noir avec qui il a des relations qu'on pourrait qualifier de mitigées ou néocoloniales au mieux. Et donc Nicolas Dumonteil nous fait un gros récit, encore un gros bouquin chez Art Libre, de l'histoire de Gunnarsson, un vampire suédois qui était bien inséré dans sa société, dans la société du début du XXe siècle en France, dans le Berry. Ouais, dans un coin, dans un trou perdu en tout cas, et qui va voir qui va devoir faire
son
face
petit monde
à des
chamboulé, quoi.
Ouais, qui va voir son petit monde pas forcément sombré, mais bien mis à mal quand même.
Et graphiquement, alors
non, graphiquement c'est Nicolas Dumonteil. Donc le dessin est chouette, mais il a vraiment un trait qui n'appartient qu'à lui, qui est assez rond, qui est...
Je me souviens de la colonne, moi, effectivement.
Ouais, la colonne qui était très bien aussi, ouais.
Ouais, ouais.
Chez Futuro, je crois, à l'époque.
Oui, je crois.
Avec Apollo au scénario, si je me trompe pas.
Bien possible aussi.
Et donc là, on a des couleurs assez vives, c'est plutôt chatoyant, et c'est un récit. Moi, je trouve qu'il a ce côté de pas trop se prendre au sérieux, Nicolas Dumonteil, qui est assez rafraîchissant,
ouais. Ouais,
et et d'aborder des sujets, mais sans trop y toucher. Là, je trouve que si j'avais un reproche à faire à cet album, c'est la mise en place que je trouve un peu longue pour expliquer que Gunnar, il est là depuis longtemps, qu'il fait partie de la vie, voilà, que c'est une figure du village. Mais sinon, c'est plutôt agréable à lire.
Ça a l'air chouette. Ouais. Ça s'appelle donc
Gunnar le Vampire chez Air Libre, donc une collection Dupuis bien connue des amateurs de BD.
Clairement, clairement. Le Tigre. C'était Le Tigre, avec un titre mythique.
Bah oui, Decepticon.
Decepticon. Vous connaissiez le Cabaret Voltaire ?
J'en ai entendu parler, mais je peux pas dire que je connaisse, non.
Non, bah moi non plus. En fait, je me souviens d'un groupe, je sais pas, ça devait être dans les 80, qui s'appelait Cabaret Voltaire, un groupe anglais, qui faisait un peu dans l'indus, un truc...
Post-wave, non ? Un truc dans
ouais,
le genre.
Avec des machines. Avec ouais. Des machines. Bah bref, pour moi, Cabaret Voltaire, c'était ça. Et en fait, j'ai découvert, grâce à l'album de Monsieur Bockel et de Monsieur Kent, ce que c'était véritablement, à savoir un vrai cabaret. Un vrai cabaret qui a eu une courte existence, une centaine de jours à peu près, à Zurich en 1916. Et qui va être en fait, on va dire, le cocon, le berceau de ce qu'on va appeler le mouvement Dada. On va voir en fait la réunion de toutes les personnalités qui vont constituer ce mouvement. Alors on pense à Zara par exemple, hein, bien évidemment. Mais en fait, c'est toute une galaxie d'artistes de ce moment-là qui s'inscrit en opposition avec le monde dans lequel il vit, avec la société dans laquelle il vit, puisqu'ils sont vraiment motivés par un rejet du capitalisme qui est maintenant bien en place. Hein, la révolution ouais. industrielle, ça y est, on voit ses effets, on a assez de recul pour les comprendre. On voit bien la prédation que ce c'est. Et puis la Première Guerre mondiale, où finalement le génie humain industriel se met au service de la destruction.
Ouais.
Il y a vraiment chez tous les participants qui sont extrêmement nombreux, hein, il y a cette motivation profonde, et puis l'art comme exutoire. L'art comme exutoire. Donc on va tous les retrouver en Suisse, donc à Zurich, puisque en fait c'est une terre d'asile, hein, pour plein de gens qui justement d'Europe qui veulent échapper un peu à la situation de guerre où ils sont. Donc on va retrouver Jean Harp, Picasso est aussi présent d'une certaine manière, Marcel Janco, plein de gens, dont beaucoup que je ne connaissais pas. Hein. Notamment je ne connaissais pas un personnage qui est assez important, Amy Henning. Une chanteuse d'une petite ville portuaire du Danemark qui était une espèce de célébrité underground en Allemagne, en Italie, en France, et qui, par sa réputation, va être un super produit d'appel au départ quand même pour les soirées qui vont être organisées au Cabaret Voltaire. En fait, c'est elle et son compagnon, Hugo Ball, qui sont vraiment à la naissance de ce cabaret qui va être une espèce de grand happening. On va y réciter des poèmes, par exemple beaucoup de Rimbaud. Rimbaud est très mis à l'honneur, mais on va aussi exposer plein de peintres, des modernes, des Modigliani, etc. Sarah va lire ses premiers poèmes. Enfin, c'est vraiment un happening culturel. Il y a un type qui vient, j'ai oublié son nom, lui, il récite des textes en tapant sur des batteries.
C'est un peu n'importe quoi aussi.
Ouais, c'est un grand foutraque. Mais c'est la naissance du mouvement Dada, ouais. En fait, qui se structure, qui s'organise, qui revendique aussi, puisqu'ils vont produire des manifestes, etc. C'est vraiment un album, en fait, sur un moment de créativité littéraire explosif.
Mais effectivement, je pense que la société de la Première Guerre mondiale devait avoir envie de faire un peu n'importe quoi d'autre que ce qui se passait à côté, quoi.
Alors, c'est Kent au dessin. Donc, c'est un dessin, je dirais, quelque part, qui n'est pas si éloigné de Miss Cattell, avec qui travaille aussi Bokeh, pour plein de raisons. Le problème que j'ai eu, c'est que je ne connais pas très bien. Et donc, je me perdais pas mal dans les personnages.
Ouais.
À part vraiment un ou deux qui avaient dont les noms sonnaient un petit peu à mon oreille, hein, le plus connu pour moi, ça reste Zara par exemple, dont on va découvrir le vrai nom, les origines, etc. Vraiment, il y a plein de personnages que je ne connaissais pas. Alors on nous fournit après une large bibliographie si on veut se mettre à jour, et puis aussi des petites bios pour chacun des personnages. Et c'est assez fascinant parce que c'est que des gens vraiment qui ont des vies en marge de création, c'est vraiment des personnalités, tous. Et les soirées devaient être quand même assez phénoménales. Je dis pas qu'ils étaient tous à jeun.
C'est pas des vraies soirées.
Ça reste des artistes, hein. Mais on nous propose donc un récit sur la courte histoire de ce cabaret Voltaire à Zurich en 1916. Alors c'est chez Delcourt et cette fois c'est dans la collection Ancrage.
Ouais.
Voilà, où on retrouve traditionnellement d'ailleurs Monsieur Bokeh, si je me trompe pas.
Il est plutôt chez Caster, lui, avec collection.
Oui, avec Cattell, ouais. C'est vrai, tu as raison.
J'ai oublié le nom.
Ouais. Bref, chant, poésie, musique, peinture, un vrai feu d'artifice. Découvrez tout ça. Plongez-vous dans ce moment charnière, finalement, de l'histoire de l'art, puisque après, ça viendront les surréalistes, etc.
Oui, je crois que les surréalistes sont issus directement de.
Oui,
du mouvement
on nous
Dada.
Parle de toute cette filiation, puis ça, le rap abstrait, etc. Bref, un petit moment de culture littéraire. On en profite parce que le râleur est pas là.
Ouais, parce que sinon on aurait parlé d'Annie Cordy pendant.
Clairement. Là, il nous aurait opposé l'art populaire.
Popec.
Voilà, c'était le troisième album que je voulais vous proposer dans cette émission. Oh, on connaît bien le personnage de Stern.
Mais oui, c'est le sixième.
Vous êtes toujours accro ?
Et ben, en fait, celui-là, je l'ai trouvé particulièrement réussi.
Ah.
Parce qu'il y en avait qui m'avaient laissé l'illusionniste, il m'avait laissé un peu sur ma faim, je l'avais trouvé vraiment un cran en dessous des autres. Mmh. Et celui-ci, donc le sixième, qui s'appelle Hors du Monde, est pour le coup une vraie réussite. Et donc on retrouve Elijah Stern, le fossoyeur amateur de littérature, qui est vraiment, alors lui c'est le anti-héros parfait. Donc ça se passe à la fin du 19e siècle, on est encore dans l'ambiance western au début de la série. Stern, tout ce qui l'intéresse lui, c'est de lire. Il fait le métier de fossoyeur parce que au moins les clients sont pas très volubiles, donc ça lui laisse le temps de lire dans le premier tome. Et c'est ainsi qu'il est présenté. Et puis bah il va de bon, c'est quand même un type qui collectionne les galères avec une régularité de métronome. Et là, il s'est retrouvé au fil du temps. Là, il se retrouve à la Nouvelle-Orléans. Il est plus désargenté que jamais. Il a du mal à payer sa logeuse. Il se retrouve à vivre un peu d'expédient. Et le seul truc qu'il trouve, en fait, c'est un boulot auprès des immigrés italiens qui, déjà à l'époque, ont tendance à faire dans des trucs qui sont pas super légaux.
La débrouillardise,
voilà. Et là, il va se retrouver à faire un boulot plutôt bien payé pour pas très longtemps, qui consiste à convoyer un truc quand il
piège classique.
Voilà, le piège classique. Donc, quand il arrive au moment de la livraison, en fait, c'est une livraison d'armes volées dans un stock quelconque qui va être livré à des révolutionnaires cubains déjà à l'époque. Et donc, lui, il est hyper mécontent quand il se rend compte qu'il s'est fait posséder, mais le problème c'est que il y a les armes qui sont livrées, mais par contre il y a pas de munitions, enfin des munitions qui correspondent pas au calibre.
Amerdoum.
Donc du coup les Cubains sont un peu maris de la situation, donc il est décidé pour que la transaction se passe. Parce que tout le monde sort ses flingues, hein. La situation est très explosive. Que Stern va rester avec les Cubains le temps que les autres aillent chercher des bonnes munitions. Ils sont sur une espèce d'île qui est entre la Nouvelle-Orléans et Cuba, une île où il n'y a plus personne a priori. Mais donc la situation, on sent qu'il y a des tensions déjà entre les différents Cubains et des histoires de vieilles colères
mal réglées.
Mal réglées, un peu recuites, qui présagent rien de bon. Stern est au milieu de tout ça, il se dit que la situation va pas forcément tourner en sa faveur, mais par contre il s'attire les bonnes grâces de celle qui semble être la chef. Et donc, donc du coup, sa situation est précaire, mais elle est pas désespérée. Sauf que il y a un événement qui va prendre tout le monde de court, c'est que l'île semble être inhabitée, mais en fait c'est pas le cas. Il y a visiblement quelqu'un sur l'île qui est pas du tout, mais alors pas du tout content d'avoir
des passeurs will be shot.
C'est voilà, c'est un peu ça. Et donc il va y avoir des problèmes inattendus qui vont surgir. Ce qui est vraiment bien dans ce truc là, c'est que on a l'impression d'être à la fois dans la grande histoire. Parce que bah, la révolution cubaine, on se rend compte qu'elle a commencé beaucoup plus tôt qu'on l'imaginait. Ça traite aussi des problèmes économiques qui affectaient les migrants aux États-Unis. Ensuite, on va se rendre compte que les problèmes d'esclavage qui vient d'être abolis ont quand même laissé des traces profondes. Bon, on les voit encore aujourd'hui. Hein. On laissé des traces profondes dans la société américaine. Et Stern, il va comme d'habitude se retrouver entre le marteau et l'enclume, et il va essayer de se dépêtrer comme il peut d'une situation qui est mal embarquée. Et c'est un vrai bon récit d'aventure. Moi, c'est vraiment ce que j'adore dans la bande dessinée, c'est quand il y a un télescopage entre une histoire, une aventure, et où on a quand même des bribes d'histoire qui sont laissées à la précision. On apprend quand même des choses, et donc c'est un très très bon album. Pour le coup c'est un album habituel, donc il doit faire 80 pages, mais j'ai vraiment une lecture qui était extrêmement plaisante. Bon, il fait 72 pages, une lecture extrêmement plaisante. Avec ce type qui est donc vraiment l'anti-héros absolu, parce qu'il est
le personnage est très réussi.
Ouais, il a un côté, il a un physique un peu à la Buster Keaton. Il est assez imperturbable. Ce qui l'intéresse, c'est de lire et d'avoir le moins de commerce possible avec les autres personnes. Et il se retrouve toujours embarqué dans des situations invraisemblables dont il va être obligé de se dépêtrer. Et généralement, il laisse toujours quelque chose, quoi. Quand c'est pas sa chemise, c'est c'est un peu de lui-même. Et donc c'était vraiment une très très bonne surprise.
Gros coup de cœur.
Ouais, parce qu'ils ont vraiment, je trouvais que la série avait tendance à ronronner un peu. Il y a eu un ou deux albums qui étaient moins bons. Et là, ils relancent complètement la machine. Donc c'était extrêmement plaisant comme lecture.
Bah, dans toutes les séries, il y a des petits
passages. Oui, voilà. Normal. Le ventre mou de la série.
Le ventre mou de la série. Un petit morceau de sucre, ça vous dit ?
Allez. Oui, c'est pas déplaisant de temps en temps.
Les Phil Spector, tout ça, moi j'aime bien. Les Girls Band, tout ça.
Bah, on a écouté beaucoup de, à part votre morceau de Hooligan.
J'ai le temps de vous proposer une dernière lecture. Alors, ça s'appelle Sorcier Bourbier, mais sous-titré Le Colosse Rouge. Et je pense qu'en fait, il faut retenir que c'est une potentielle série. Parce qu'autrement, c'est présenté un peu comme un one-shot, mais on sent la potentielle série. Ça, je pense que ça sera une série qui s'appellera Sorcier Bourbier.
D'accord.
Et le premier épisode, ça sera Le Colosse Rouge. En fait, Le Colosse Rouge, c'est le personnage central. Alors, de son vrai nom, alors j'ai noté, c'est Rabban de Thuringe. Ta-ta-ta-tin. On est dans une France médiévale. Rabban de Thuringe, c'est le Colosse Rouge. C'est une espèce de géant rouge. J'espère que vous avez compris, avec le corps recouvert de tatouages qui semblent être des runes, des choses comme ça.
Donc c'est un être humain.
Oui, mais enfin, il a une telle taille et une telle force que on sent bien que le gars a dû subir une mutation.
Ok.
Hein, magique, vraisemblablement. On est dans de l'heroic fantasy. Et c'est devenu un peu la terreur du coin. L'ogre. en fait, du coin. Il attaque les convois, il tue des gens, il enlève aussi. Et notamment, là, l'histoire commence avec une attaque d'une diligence qui transporte une jeune fille. En fait, qui est renvoyée dans son village parce que son mari est mort. On l'avait mariée avec un vieux barbon. Enfin, tu vois le truc. Il est mort et la famille s'en débarrasse pour garder les sous. Donc la belle-mère, on l'attège. Retour à la maison. Donc elle est au fond du trou. Elle est vraiment désespérée. Elle se prénomme Ida. Et en fait, curieusement. Notre colosse l'épargne et même fait un bout de route avec elle. Bon, et c'est pas un grand bavard et tout ça. Elle est assez fascinée par la puissance du gars. Tu sens qu'il y a une petite étincelle. Oh,
okay.
Donc d'un côté t'as ça et puis il y a le petit village où sévit dans la zone où sévit notre colosse rouge, où va se retrouver réuni tout un personnage qui est en fait un lien avec ce Rabanne qui lui en vole en fait. Chacun pour des raisons.
Visiblement, il y a de bonnes raisons.
Ouais, chacun pour des raisons qu'on va découvrir. Donc on a Alderic, alors lui c'est le chevalier, il est de l'ordre du Soleil. Ils ont un passé militaire en commun. C'est ce qu'on va découvrir, notamment lié aux croisades. Il y a Yvain, un ménestrel. Va y avoir aussi une Gagardine, si je me souviens bien, une sorcière. Alors elle, c'est très rigolo, elle a un pouvoir de transformation. Et quand elle est par exemple en renard, tout est de couleur vert. À chaque fois, il y a une espèce de vert pomme. Tu reconnais sa créature dans laquelle elle se transforme. Comme ses cheveux, en fait. C'est assez rigolo. Alors c'est une sorcière, hein, bien sûr. Tout le monde veut la brûler en même temps. Chacun a des problèmes. Chacun n'est peut-être pas tout à fait ce qu'il prétend être, notamment notre ménestrel, même notre Alderic. Chacun a des secrets. Et tu vas avoir un récit donc de l'espèce de création. On peut pas dire d'une alliance, mais disons, on va dire que les forces vont s'adjoindre pour combattre notre colosse rouge. Tous nos personnages vont plus ou moins d'une certaine manière travailler ensemble et en même temps se mettre des bâtons dans les roues et on va découvrir leurs secrets. C'est un récit qui est mené tambour battant où il y a un petit peu comme on évoquait tout à l'heure Belle de Soie. Il y a vraiment des tas de rebondissements. Là aussi il y a un dessin très particulier, c'est très coloré, c'est assez naïf, il y a un petit soupçon peut-être de Tezuka dedans. Vous voyez, avec des visages un peu ronds, qui peuvent avoir des fois des expressions faciales très très exagérées quand ils ont le seum, quand ils sont en colère, qui peuvent presque s'être cassé la gueule, tu sais, quand ils apprennent une nouvelle qui les fout par terre.
Donc c'est un peu humoristique.
Ouais, c'est un peu humoristique. Je sais pas si ça s'adresse à de l'adulte dans la force de l'âge, comme nous-mêmes,
oui. Ou
à un public un peu plus, on va dire, juvénile. Mais moi j'ai trouvé ça très réussi. Et notamment, je vous dis, par la richesse du scénario. Et les vraiment chaque personnage va avoir un background et tout qu'on va découvrir.
Donc c'est un bon récit bien bâti avec des persos.
Ouais, exactement.
Construits.
Je comprends que, je pense, Delcourt, et j'imagine que les auteurs en seront ravis, pense à une potentielle série. C'est Alex Chauvel au scénario. Je dois avouer que Chauvel, au début, je me suis dit, je crois que ce n'est pas la même personne.
Non, c'est pas, il s'appelle David Chauvel, mais lui, il fait du polar plutôt.
Exactement. Léa German, au dessin, et à la couleur, Catherine Avraham. Oh là, c'est compliqué tous ces noms, je suis désolé si je les écorche. Bref, une belle découverte. Qui peut appeler peut-être alors je sais pas s'ils resteront dans la même idée, à savoir des sorciers dans les ennuis, puisque notre sorcière est un peu dans les ennuis, ou si on va retrouver les personnages, là, notre ménestrel, notre Alderic, tout ça dans d'autres aventures. Bref, très réussi le Colosse Rouge. Avez-vous encore quelque chose
à... J'ai tout présenté.
Eh ben, on a le temps de s'écouter un dernier morceau de musique, alors tiens. Et puis après, on dira, il sera venu le moment de se quitter. Un classique, un R.E.M., une chanson pop. Oh. Oui, c'est une vieillerie, ok, c'est REM. Bon.
Ça ne nous rajeunit pas.
Ouais, ouais, mais je me suis réécouté le vinyle il n'y a pas longtemps. Ouais. J'aurais pu vous péter un Radiohead, c'est vrai qu'il paraît que vous aimez ça.
Les chanteurs qui miaulent, c'est ma passion.
Je garde ça dans un coin de la tête.
Non, mais Carpetto se charge de mon passe. Oui, vous ne lui avez même pas dédicacé ce morceau.
Oui, c'est vrai qu'on pourrait lui dédicacer.
Ah, je pense qu'il mérite.
Carpetto, il est très open musicalement. Oui. Ouais, ouais, c'est plus difficile de trouver.
Je crois que son groupe phare, c'est la Compagnie Créole, par contre.
Oui, vraiment, clairement. Ouais. Clairement. Il porte très bien le pagne.
En plus.
Et la chemise à fleurs. Il a un côté, ouais, homme des îles.
Oui, bah, clairement. Bah, après, il a vécu longtemps à La Réunion. Ça laisse des traces.
C'est clair.
Il a toujours son petit jus de mangue avec lui.
Voilà qui vient conclure cette 300... Combien?
Non, 531e. 531e.
J'avais les chiffres, mais dans le désordre. Ouais. 531e, ça me file le vertige.
Ah bah...
Avec peut-être donc Carpetto la semaine prochaine, et normalement, à moins qu'il ait fait souche dans le... Pas dans le Berry.
Non, bah non,
mais
non, il n'ira jamais. Il n'ira jamais.
Chacun ses choix avec le Roger. Bonne lecture, à la semaine prochaine.
Bonne lecture, à la semaine prochaine.